Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre de nos lectures en liberté, nous revenons et nous terminons ce soir la lecture de Zazie dans le métro. Trouscaillon avait de nouveau revêtu son uniforme de flicman. Sur la petite place, non loin du monde piété, il attendait, mélancolieux, la fermeture de cet établissement. Il regardait pensivement un groupe de clochards qui dormaient sur le grill d'un puits de métro, goûtant la tiédeur méditerranéenne que dispense cette bouche et qu'une grève n'avait pas suffi à rafraîchir. Il médita quelques instants ainsi sur la fragilité des choses humaines et sur les projets des souris qui n'aboutissent pas plus que ceux des anthropoïdes. Puis, il se prit à envier, quelques instants seulement, faut pas exagérer, le sort de ces déshérités. Déshérités peut-être, mais libérés du poids des servitudes sociales et des conventions modernes. Trouscaillon soupira. Un sanglot pire lui fit écho, ce qui porta le trouble dans sa rêverie trouscaillonne. « Qu'est-ce ? » se dit la rêverie trouscaillonne en revêtant à son tour l'uniforme de flicman. Et, en faisant le tour de l'ombre d'un œil minutieux, elle découvrit l'origine de l'intervention sonore en la personne d'un quidan assis quoi sur un banc. Trouscaillon s'en approcha. Non sans avoir pris les précautions d'usage. Les clochards, eux, continuaient à dormir en ayant senti passer d'autres. L'individu prétendait somnoler, ce qui ne rassura pas Trouscaillon, mais ne l'empêcha point cependant de lui adresser la parole en ces termes. « Et que faites-vous en ces lieux? Et à une heure si tardive ?»« Est-ce que ça vous regarde ?» répondit le dénommé X. Trouscaillon s'était d'ailleurs posé la même question dans le temps qu'il dévidait les siennes. Oui, en quoi cela le regardait-il? C'était le métier qui voulait ça, le métier de l'enveloppe, mais pas depuis qu'il avait perdu Marceline. Il aurait eu tendance à attendrir le cuir de son comportement dans le sperme de cette désidérata. Combattant cette funeste inclination, il poursuivit ainsi la conversation. « Oui, qu'il dit. » Ça me concerne. Alors, dit l'homme, dans ce cas-là, c'est différent. M'autoriserez-vous donc à de nouveau formuler la proposition interrogative qu'il y a quelques instants j'énonça devant vous? J'énonçais, dit l'obscur. J'énonçais, dit Trouscaillon. J'énonçais, sans S. J'énonçais, dit enfin Trouscaillon. Ah, la grammaire, c'est pas mon fort. Et c'est ça qui m'en a joué des tours. Passons, alors. Alors quoi? Ma question. Ben, dit l'autre, je l'ai oublié. Depuis le temps? Alors faut que je recommence, on dirait. Quelle fatigue! Trouscaillon s'abstint de soupirer, craignant une réaction de la part de son interlocuteur. Allez, lui dit ceci cordialement, faites un petit effort. Trouscaillon en fit un vache. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'immatriculation de la sécurité sociale, numéro de compte en banque, livret de caisse d'épargne, quittance de loyer, quittance d'eau, quittance de gaz, quittance d'électricité, carte hebdomadaire de métro, carte hebdomadaire d'autobus, facture lévitant, prospectus frigidaire, trousseau de clés, carte d'alimentation, blanc-seing, laissez-passer, bulle du pape, et tutti frutti, aboulez-moi sans phrase, votre documentation, et encore, j'aborde pas la question automobile, carte grise, lampion de sûreté, passeport international et tutti quanti, parce que tout ça, ça doit pas être dans vos moyens. Monsieur l'agent, vous voyez le quart, là-bas. Oui, c'est moi qui le conduis. Ah, ben, dites-moi, vous n'êtes pas très fort, vous m'avez pas encore reconnu. Trouscaillon, un peu rassuré, alla s'asseoir à côté de lui. Vous permettez qu'il demanda, faites donc. C'est que ça n'est pas très réglementaire. Il est vrai, reprit Trouscaillon, pour ce qui est du règlement, j'ai nettement charrié aujourd'hui. Pépin, noyau. Trouscaillon ajouta, à cause des femmes. Trouscaillon poursuivit. J'ai la confession qui m'étrangle la pipe. La confession, enfin, la racontousse, quoi. Ben, j'en ai tout de même un bout à dégoiser. Bien sûr, dit Fédor Balanovitch. Un moustique vola dans la connerie de la lueur d'un réverbère. Il voulait se réchauffer avant de piquer de nouvelles peaux. Il y réussit. Son corps calciné chut lentement sur l'asphalte jaune. « Alors, allez-y, dit Fédor Balanovitch, sinon c'est moi qui raconte. »« Non, non, dit Trouscaillon, parlons encore un peu de moi. » Après s'être gratté le cuir chevelu d'un ongle rapace et moissonneur, il prononça des mots auxquels il ne manqua pas de donner une certaine teinte d'impartialité et même de noblesse. Ces mots, les voici. « Je ne vous dirai rien de mon enfance ni de ma jeunesse. » De mon éducation, n'en parlons point, je n'en ai pas. Et de mon instruction, je n'en parlerai guère, car j'en ai eu peu. Sur ce dernier point, voilà qui est fait. J'en arrive donc maintenant à mon service militaire, sur lequel je n'insisterai pas. Célibataire, depuis mon plus jeune âge, la vie m'a fait ce que je suis. Il s'interrompit pour rêvasser un brin. « Eh ben, continuez, dit Fédor Palanovitch. Sans ça, je commence. » Décidément, dit Trouscaillon, ça tourne pas rond. Et tout ça à cause de la femme que je rencontra ce matin. Que je rencontrai. La rombière que Gabriel traîne après lui. Oh non, pas celle-là. D'ailleurs, celle-là, elle m'a déçu. Elle m'a laissé courir à mes occupations, et quelles occupations, sans même faire des simagrées pour me retenir. Tout ce qu'elle voulait, c'est voir danser Gabriella. Gabriella, marrant, positivement marrant. C'est le mot, dit Fédor Balanovitch. Il n'y a rien de comparable au numéro de Gabriel sur la place de Paris, et je vous assure que j'en connais un bout sur le by night de cette cité. Vous en avez de la veine, dit Trouscaillon distraitement. Mais je l'ai vu si souvent, le numéro de Gabriel, que maintenant j'en ai soupé, c'est le cas de le dire. Et puis, il ne se renouvelle pas. Des artistes, qu'est-ce que vous voulez, c'est souvent comme ça. Une fois qu'ils ont trouvé un truc, ils l'exploitent à fond. Faut reconnaître qu'on est tous un peu comme ça, chacun dans son genre. Moi pas, dit Trouscaillon avec simplicité. Moi, mes trucs, je les varie constamment. Ben parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon. Voilà, vous vous cherchez. Mais une fois que vous aurez obtenu un résultat appréciable, vous vous en tiendrez là, parce que jusqu'à présent, ce que vous avez obtenu comme résultat, ça ne doit pas être bien brillant, il n'y a qu'à vous regarder. Vous avez l'air d'un minable. Même avec mon uniforme, bon, ça n'arrange rien. Accablé, Trouscaillon se tut. Et reprit Fédor Balanovitch, à quoi ça rime ? Bah, je ne sais pas trop. J'attends Madame Mouac. Eh bien, moi, j'attends tout simplement mes cons pour les ramener à leur auberge, car ils doivent partir à la première heure pour Gibraltar aux anciens parapets. Tel est leur itinéraire. Ben, « Ils en ont de la veine, » murmura Trouscaillon distraitement. Fédor Balanovitch haussa les épaules et ne dédia pas commenter ses propos. C'est alors que les clameurs se firent entendre. Le mont-de-piété fermait. « Pas trop tôt !» dit Fédor Balanovitch. Il se lève et se dirige vers son autocar. Il s'en va, comme ça, sans formule de politesse. Trouscaillon se lève à son tour. Il hésite. Les clochards dorment. Le moustique est mort. Fédor Balanovitch donne quelques coups de claqueçon pour réunir ses agneaux. Ceux-ci se congratulent sur la bonne, l'excellente soirée qu'ils ont passée et charabiaz à qui mieux en voulant transmettre ce message dans la langue autochtone. On se dit adieu. Les éléments féminins veulent embrasser Gabriel, les masculins n'osent pas. Un peu moins de ramdam, dit l'amiral. Les voyageurs montent peu à peu dans le car. Fédor Balanovitch bâille. Dans sa cage, au bout du bras de Turandot, la verdure s'est endormie. Zazie résiste courageusement, elle n'imitera pas la verdure. Charles est allé chercher son bahut. « Alors, mon coquin, dit la veuve Mouac en voyant arriver Trouscaillon, vous vous êtes bien amusé ?»« point de trop, dit Trouscaillon. Nous, ce qu'on a pu se distraire, monsieur est d'un drôle. Merci, dit Gabriel, n'oubliez pas l'art tout de même. Il n'y a pas que la rigolade, il y a aussi l'art. Bah, il se ramène pas vite avec son bahut, dit Turandot. Elle s'est bien amusée, demande l'amiral en considérant l'animal, le bec sous son aile. Ça lui fera des souvenirs, dit Turandot. Les derniers voyageurs ont regagné leur place. Ils enverront des cartes postales. « Oh oh !» crie Gabriel. « Adios, amigo ! Chin chin ! À la prochaine !» Et le car s'éloigne en portant ses étrangers ravis. Le jour même, à la première heure, ils partiront pour Gibraltar aux anciens parapets. Tel est leur itinéraire. Le taxi de Charles vient se ranger au long du trottoir. « Il y a des gens en trop !» remarque Zazie. « Ça n'a pas d'importance, dit Gabriel. Maintenant, on va aller se taper une soupe à l'oignon. »« Merci, dit Charles. Moi, je rentre. » Aussi sec. « Alors, Mado, tu viens ?» Madeleine monte et s'assoit à côté de son futur. « Au revoir tout le monde !» qu'elle crie. « Et merci pour la bonne... Et merci pour... » Mais on n'entend pas le reste. Le taxi est déjà loin. « Si on était en Amérique, dit Gabriel, on leur aurait foutu du riz dessus. » « Bah t'as vu ça dans les vieux films, dit Zazie. Maintenant, à la fin, ils se marient moins que dans le temps. Moi, je préfère quand ils crèvent tous. »« Bah j'aime mieux le riz, dit la veuve Mouac. « On vous a pas sonné, dit Zazie. Mademoiselle, dit Trouscaillon, vous devriez être plus poli avec une ancienne. »« Ce qu'il est beau quand il prend ma défense, dit la veuve Mouac. « En route, dit Gabriel, je vous emmène au Nyctalope. C'est là où je suis le plus connu. » La veuve Mouac et Trouscaillon suivent le mouvement.
Je me baladais sur les boulevards lorsque je rencontre l'ami Bidar. Il avait l'air si estomaqué que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien, car j'ai une peur de chien que ça me tombe dans les vestibules. Un mois après, je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis est-elle trouvée, et je l'avance de s'expliquer.
Eh bien voilà, me dit-il, je gagne ma vie avec ma pendule. Je suis l'estomac, un petit cadran, je vends le rein de tous les passants,
en attendant que j'ai le cadran sur les vestibules.
Il
suicida, lorsqu'il eut vu que personne l'opéra. Et comme j'arrivais,
juste sur le chantier,
moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer.
Eh bien voilà, me dit-il, j'en avais assez d'avoir une pendule.
Une pendule,
ça m'empêchait de dormir la nuit. Pour la remonter, fallait me faire un trou dans le dos.
Je préférais être pendu. La lorsqu'il fut mort, je vais à son enterrement. C'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais lorsqu'il fut dans le trou, parce qu'on rigola. Quand au fond de la bière, le septième coup de midi, ta ta. Eh bien, voilà, 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 il avait avalé une pendule. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qui ont un estomac de chien et du cœur dans les vestibules. Oui, du cœur dans les vestibules.
Et donc, après ce moment musical habituel, nous allons nous replonger dans les aventures de Zazie pour la dernière partie du roman de Raymond Queneau.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Zazie, de nouveau, dormait. La verdure, sans doute dans un esprit de vengeance, essayait de projeter un excrément frais hors de sa cage. Cependant, les gifles allaient bon train entre Gridou et la veuve Mouac, et Gabriel s'esclaffait en voyant Tourandeau essayer de friser la jambe. Mais tout ceci n'était pas du goût des loufias d'Onyctalope. Deux d'entre eux, spécialisés dans ce genre d'exploits, saisirent subitement Tourandeau chacun sous un bras et, l'encadrant allègrement, ils eurent au fait de l'emmener hors pour le projeter sur l'asphalte de la chaussée, interrompant ainsi la maraude de quelques taxis moroses dans l'air grisâtre et rafraîchi du tout petit matin. « Alors ça !» dit Gabriel. « Alors ça, non !» Il se leva, et attrapant les deux loufias qui s'en retournaient satisfaits vers leurs occupations ménagères, il leur fait sonner le cassis l'un contre l'autre de telle force et belle façon que les deux pharaons s'effondrent fondus. « Bravo !» s'écrit en chœur Gridou et la veuve Mouac, qui, d'un commun accord, ont interrompu leur échange de correspondance. Un tiers loufia, qui s'y connaissait en matière de bagarre, voulut remporter une victoire éclair. Prenant en main un siphon, il se proposait d'en faire résonner la masse contre le crâne de Gabriel. Mais Gridou avait prévu la contre-offensive. Un autre siphon, non moins compact, balancé par ses soins, s'en vint au terme de sa trajectoire faire des dégâts sur la petite tête de l'astucieux. « Palsambleu ! » hurle Tourandeau, qui, ayant repris son équilibre sur la chaussée aux dépens des freins de quelques chars nocturnes particulièrement matineux, pénétrait de nouveau dans la brasserie en manifestant un fier désir de combat. Et c'était maintenant des troupeaux de loufias qui surgissaient de toutes parts. Jamais on n'eût pu croire qu'il y en eût autant. Ils sortaient des cuisines, des caves, des offices, des soutes. Leur masse serrée absorba Gridou, puis Tourandeau aventuré parmi eux. Mais ils n'arrivaient pas à réduire Gabriel aussi facilement, tel le coléoptère attaqué par une colonne myrmidonne, tel le bœuf assailli par un banc irrudinaire. Gabriel se secouait, s'ébrouait, s'ébattait, projetant dans des directions variées des projectiles humains qui s'en allaient briser tables et chaises ou rouler entre les pieds des clients. Le bruit de cette controverse finit par réveiller Zazie. Apercevant son oncle, en proie à la meute limonadière, elle hurla « Courage, tonton !» et s'emparant d'une carafe, la jeta au hasard dans la mêlée. Tant l'esprit militaire est grand chez les filles de France. Suivant cet exemple, la veuve Mouac dissémina des cendriers autour d'elle. Tant l'esprit d'imitation peut faire des choses aux moins doués. S'entendit alors un fracas considérable. Gabriel venait de s'effondrer dans la vaisselle, entraînant parmi les débris sept loufias déchaînés, cinq clients qui avaient pris parti et un épileptique. D'un seul mouvement, se levant, Zazie et la veuve Mouac s'approchèrent du magma humain qui s'agitait dans la sueur et la faïence. Quelques coups de siphon bien appliqués éliminèrent de la compétition quelques personnes au crâne fragile. grâce à quoi Gabriel put se relever, déchirant pour ainsi dire le rideau formé par ses adversaires, du même coup révélant la présence abîmée de Gridou et de Turandot allongés sur le sol. Quelques jets à quoi gouaseux, dirigés sur leur tronche par l'élément féminin et brancardier, les remirent en situation dès lors, l'issue du combat n'était plus douteuse. Tandis que les clients tièdes ou indifférents s'éclipsaient en douce, les acharnés et les loufias, à bout de souffle, se dégonflaient sous le poing sévère de Gabriel, la manchette sidérante de Gridou, le pied virulent de Turandot. Lorsque Ratatiné, Zazie et Mouak les effaçaient de la surface d'Onyctalope et les traînaient jusque sur le trottoir, où des amateurs bénévoles, par simple bonté d'âme, les disposaient en tas. Seul ne prenait pas part à l'hécatombe la Verdure, dès le début de la bigorne douloureusement atteint au périnée par un fragment de soupière. Gisant au fond de sa cage, il murmurait en gémissant. « Charmante soirée ! Charmante soirée !» Traumatisé, il avait changé de disque. Même sans son concours, la victoire fut bientôt totale. Le dernier antagoniste éliminé, Gabriel se frotta les mains avec satisfaction et dit « Eh ben maintenant, je me taperai bien un café crème !» Rassuré, Turandot réencagea le perroquet et s'approcha des machines. Il essaya de les faire marcher, mais ne pratiquant pas ce modèle, il commença par s'ébouillanter une main. « Ouï, 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 ouï !» dit-il en toute simplicité. Ben, « Sacré maladroit !» dit Gridou. « Pauvre Minet !» dit la veuve Mouac. « Merde !» dit Turandot. « La crème pour moi !» dit Gabriel. « Bien blanc !»« Et pour moi !» dit Zazie, « avec de la peau dessus !»« Ah !» répondit Turandot, qui venait de s'envoyer un jet de vapeur en pleine poire. « On ferait mieux de demander ça à quelqu'un de l'établissement, » dit Gabriel, placidement. « C'est ça, » dit Gridou, « je vais en chercher un. » Il alla choisir dans le tas le moins amoché qu'il remorqua. « T'étais batte, tu sais, » dit Zazie à Gabriel. « Les homosexuels comme toi doivent pas y en avoir des bottes. » « Et comment, mademoiselle, désire-t-elle son crème ?» demanda le loufia, ramené à la raison. Deux divisions blindées de veilleurs de nuit et un escadron de spahis jurassiens venaient, à ce moment, de prendre position autour de la place Pigalle. « Faudrait peut-être que je téléphone à Marceline, » dit Gabriel. Les autres continuèrent à boire leur crème en silence. « Ça va chier, » dit le loufia à mi-voix. « On vous a pas sonné !» répliqua la veuve Mouac. « Je vais te rapporter où je t'ai pris !» dit Gridou. « ça va !» dit le loufia. « Il n'y a plus moyen de plaisanter !» Gabriel revenait. « C'est marrant !» qu'il dit. « Ça répond pas !» Il voulut boire son crème. « Merde » ajouta-t-il, « c'est froid !» Il le reposa sur le zinc, écœuré. Gridou alla regarder. « Il s'approche !» qu'il annonça. Abandonnant le zinc, les autres se groupèrent autour de lui, sauf le loufia, qui se camoufla sous la caisse. Ben, « Ils ont pas l'air contents !» remarqua Gabriel. « Oh, c'est rien, chouette !» murmura Zazie. « J'espère que la Verdure aura pas d'ennui, » dit Turandot. « Il a rien fait, lui !»« Et moi, alors, » dit la veuve Mouac, « qu'est-ce que j'ai fait, moi ?»« Vous irez rejoindre votre trousse-caillon, » dit Gridou, en haussant les épaules. « Oh, mais c'est lui !» s'écria-t-elle. Enjambant le tas de déconfits qui formait une sorte de barricade devant l'entrée d'Onyctalope, la veuve Mouac manifesta l'intention de se précipiter vers les assaillants qui s'avançaient avec lenteur et précision. Une bonne poignée de balles de mitraillette coupa court à cette tentative. La veuve Mouac, tenant ses tripes dans ses mains, s'effondra. « C'est bête !» murmura-t-elle. Moi qu'avais des rentes. Et elle meurt. Ça se gâte, fit remarquer Turandot, pourvu que la Verdure attrape pas un mauvais coup. Zazie s'était évanouie. Il devrait faire attention, dit Gabriel furieux. Il y a des enfants. Mais tu vas pouvoir leur faire des observations, dit Gridou. Lève-la. Ces messieurs, fortement armés, se trouvaient maintenant tout simplement de l'autre côté des vitres, défense d'autant plus faible qu'elles avaient en majeure partie valsé durant la précédente bagarre. Ces messieurs, fortement armés, s'arrêtèrent en ligne au milieu du trottoir. Un personnage, le pébroc accroché à son bras, se détacha de leur groupe et, enjambant le cadavre de la veuve Mouaque, pénétra dans la brasserie. « Tiens !» firent en cœur Gabriel, Turandot, Gridou et la Verdure. Zazie était toujours évanouie. « Oui, dit l'homme au pébroc, c'est moi, Haroun Arachide. Je suis celui que vous avez connu et parfois mal connu, prince de ce monde et de plusieurs territoires connexes. Il me plaît de parcourir mon domaine sous des aspects variés, en prenant les apparences de l'incertitude et de l'erreur qui d'ailleurs me sont propres. Policier primaire et défalqué, voyou noctinote, indécis pour chasseur de veuves et d'orphelines, ces fuyantes images me permettent d'endosser sans crainte les risques mineurs du ridicule, de la calembredaine et de l'effusion sentimentale. À peine porté, disparu par vos consciences légères, je réapparais en triomphateur, et même sans aucune modestie. Voyez. Bah, « tu causes, dit la Verdure. En voilà un qui me paraît bon pour la casserole, dit Trouscaillon. Pardon, Haroun Arachide. » Jamais, s'écrie Tourandeau en serrant la cage sur son cœur, plutôt périr. Sur ces mots, il commence à s'enfoncer dans le sol, ainsi d'ailleurs que Gabriel, Zazie et Gridou. Le monte-charge descend le tout dans la cave d'Onyctalope. Le manipulateur du monte-charge, plongé dans l'obscurité, leur dit doucement, mais avec fermeté, de le suivre et de se grouiller. Il agitait une lampe électrique, signe à la fois de ralliement et des vertus de la pile qu'il entretenait, tandis qu'au rez-de-chaussée, les messieurs, fortement armés, sous le coup de l'émotion, se laissaient partir des rafales de mitraillettes entre les jambes, le petit groupe, suivant l'injonction et la lumière susdite, se déplaçait avec une notable rapidité entre les casiers bourrés de bouteilles de muscadine et de grenadets. Gabriel portait Zazie, toujours évanouie. Turandot, la Verdure, toujours maussade, et Gridou ne portait rien. Ils descendirent un escalier, puis ils franchirent le seuil d'une petite porte, et ils se trouvèrent dans un égout. « Maintenant, dit doucement le lampadophore, si on ne veut pas se faire repérer, il faut partir chacun de son côté. Toi, ajouta-t-il, à l'intention de Turandot, t'auras du mal avec ton oiseau. Ben, je vais le peindre en noir, dit Turandot d'un air sombre. Tout ça, dit Gabriel, c'est pas marrant. Sacré Gabriel, dit Gridou, toujours le mot pour rire. Moi, dit le lampadophore, je ramène la petite. Toi aussi, Gabriel, t'es un peu visible, et puis j'ai pris sa valoche avec moi, mais j'ai dû oublier les choses, j'ai fait vite. Raconte-moi ça, c'est pas le moment. Les lampes s'allumèrent. Ça y est, dit doucement l'autre, le métro remarche. Toi, Gridou, prends la direction étoile, et toi, Turandot, la direction Bastille. Alors, au revoir, les gars, fit Gridou. Et il s'éloigna dans la direction étoile. « Alors, au revoir les gars, » dit la Verdure. « tu causes, » dit Turandot. « C'est tout ce que tu sais faire. » Et ils s'envolèrent dans la direction Bastille. Jeanne, la lochère, s'éveilla brusquement. Elle consulta sa montre-bracelet posée sur la table de nuit. Il était 6 heures passées. « Faut pas que je traîne. » Elle s'attarda pendant quelques instants pour examiner son Jules, qui ronflait. Elle le regarda en gros puis en détail, considérant notamment avec lassitude et placidité l'objet qui l'avait tant occupé pendant un jour et deux nuits et qui maintenant ressemblait plus à un poupard après sa tétée qu'à un ver grenadier. Et il est bête, en plus, avec ça. Elle se vêtit en vitesse, jeta divers objets dans son fourre-tout, se rafistola le visage. « Faudrait pas que je sois en retard si je veux récupérer la fille. Comme je connais Gabriel, ils seront sûrement à l'heure, à moins qu'il lui soit arrivé quelque chose. » Elle serra son rouge à lèvres sur son cœur. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Maintenant, elle était fin prête. Elle regarda son Jules encore une fois. « S'il revient me trouver, s'il insiste, je dirai peut-être pas non, mais c'est plus moi qui courrai après. » Elle ferma doucement la porte derrière elle. L'hôtelier lui appela un taxi, et à la demi, elle était à la gare. Elle marqua 2 coins et descendit sur le quai. Peu après, Zazie s'amenait, accompagnée par un type qui lui portait sa valoche. « Tiens, Tijane la Lochère, Marcel, comme vous voyez. Mais elle dort debout. On a fait la foire, faut l'excuser. Et moi aussi, faut m'excuser si je me tire. Je comprends. Mais Gabriel... Oh, c'est pas brillant. On s'éclipse. Au revoir, petite. Au revoir, monsieur, dit Zazie, très absente. Jeanne Lalochère la fit monter dans le compartiment. Alors, tu t'es bien amusé?
Oh, comme ça.
T'as vu le métro?
Non.
Alors, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai vieilli.
Voilà, nous avons terminé cette lecture des aventures de Zazie dans le métro. Un roman de Raymond Queneau. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.